toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, Lisa reçoit Amélie Deporter, responsable du site de Poulainville de la SPA. Mais avant ça, je vous laisse entre les mains de Rémi et de Polo, le scientifique.
Découvrir la culture et la science tout simplement et en t'amusant, alors bienvenue à toi sur le podcast de Culture Express.
Bonjour Paul, comment vas-tu ?
Salut à tous, et toi comment vas-tu ?
Très bien, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, je vais vous parler des orages. Je vais vous apprendre déjà les techniques pour évaluer la distance d'un orage et surtout les bons gestes à adopter. Dans un premier temps, quelles sont les techniques à évaluer pour la distance d'un orage ? Bon, lorsqu'il y a un orage, rappelez-vous, on voit d'abord l'éclair et ensuite on entend la foudre. Bah oui, pourquoi ? Parce que tout simplement, la lumière est plus rapide que le son. La lumière, c'est 300 000 mètres par seconde, alors que le son, c'est 340. Donc, il y a toujours un écart. Et bien, en fait, pour pouvoir savoir à quelle distance on se situe de l'orage, il suffit de compter à partir du moment où on voit l'éclair et de compter jusqu'à temps qu'on entend le coup de foudre. Et donc, pour connaître la distance de l'orage, une petite règle de 3 va donc être formulée. Exemple, si le son... Le tonnerre met 3 secondes pour parcourir 1 km. Si après avoir vu l'éclair, le tonnerre arrive à tes oreilles 9 secondes après, il suffit juste de faire 3 divisé par 9. Et donc du coup, tu sais que en fait, l'orage est situé à 3 km de toi. Et à ce moment-là, c'est le moment de se barrer rapidement. Et donc, maintenant, nous allons passer au conseil. Quelle attitude adopter lors d'un orage ? Dans un premier temps, il faut savoir que se mettre dans sa voiture est une excellente bonne idée. Puisque forcément, vous le savez, la voiture... par cage de Faraday, va vous isoler de toute source électromagnétique. Et oui, je vous rappelle, la cage de Faraday, c'est une cage métallique qui permet d'être étanche au niveau de tout ce qui va être champ électromagnétique. Donc, vous évitez de vous faire foudroyer. Dans un deuxième temps, se mettre sous un arbre, c'est une très mauvaise idée. Et c'est pareil comme ouvrir un parapluie. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. En fait, il faut savoir que la foudre va être attirée par toutes les surfaces pointues. Et c'est ça qui a permis l'élaboration du paratonnerre. Et oui, parce qu'en fait, il faut savoir que l'accumulation de charge sur la pointe d'un objet va créer des champs électriques beaucoup plus importants. Donc finalement, se mettre sous un arbre et même se mettre sous un parapluie ouvert, éviter ça, c'est pas bon. Après, ce qui paraît logique, éviter aussi d'avoir des objets métalliques au-dessus de la tête. Les golfeurs, faire du golf durant un orage, c'est la pire des mauvaises idées pour se faire foudroyer. Ensuite, éviter aussi de prendre un bain. Téléphoner avec un téléphone fixe, vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez téléphoner avec un téléphone portable, aucun problème. Une chose que peu de personnes ne savent, c'est surtout, il faut éviter de courir lors d'un orage. Parce qu'en fait, si la foudre s'abat sur le sol, le courant va se diffuser dans le sol, puisque la foudre cherche à atteindre le sol. Et celui-ci, par contre, est capable de remonter par les pieds d'une personne. Le courant va donc passer d'une jambe à l'autre, et il faut savoir que quand même, le corps humain, c'est quand même un bon conducteur de courant. Et en fait, ce phénomène très dangereux, ce qu'on appelle l'effet de pas, ou la tension de pas. Et ça peut provoquer l'électrocution, et c'est ce qui est arrivé dans certains champs de bétail, où en fait le bétail est mort, parce qu'en fait le courant a circulé chez les pattes des quadrupèdes, et donc du coup, ça a été une électrocution pour eux, et ça a provoqué un arrêt cardiaque. Donc courir, c'est une mauvaise idée. La chose à faire, c'est surtout de garder les pieds joints, être accroupi, genoux contre la poitrine, la tête rentrée et aussi main sur les oreilles. Cela va donc permettre de réduire la surface de contact avec le sol et donc d'éviter une différence de potentiel. Et comme la différence de potentiel va être de 0, il n'y aura pas de passage de courant. Donc vous avez 0 risque. Ensuite, si vous êtes en groupe, écartez-vous. Et oui, il faut au moins une distance de 3 mètres entre chaque personne, car il faut savoir que le courant peut se propager de personne en personne. Et ce phénomène, ce qu'on appelle le phénomène d'éclair latéral. Il suffit d'une seule étincelle qui franchit l'espacement entre deux personnes, et les deux personnes peuvent se faire foudroyer. Je te l'avais dit, la foudre, c'est un peu violent. Si tu marches et que tu entends des crépitements ou des bourdonnements, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'air est en train de se ioniser et donc le courant est en train de chercher un chemin vers le sol et va tomber pile à ton emplacement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de couronne. Et donc, encore un moyen de se faire électrocuter. Si tu es dans l'eau, forcément, sors de l'eau. Ce n'est pas bon de rester dans l'eau si tu n'as pas envie de te faire électrocuter. Donc, si tu es à la mer, n'oublie pas de sortir de l'eau parce que la foudre est capable de tomber même dans l'eau. Une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que si tu es en vélo, ça ne sert à rien de rester sur ton vélo lors d'un orage, en pensant que tu vas être en sécurité parce que ton pneu est isolant. C'est une très mauvaise idée, et surtout, c'est faux. En fait, il n'y a pas assez de gomme et ton pneu n'est pas assez résistant à la conduction du courant. Et donc, du coup, ton pneu va juste éclater et tu risques aussi de te faire électrocuter. Pour terminer et pour conclure, si une personne se fait foudroyer, il faut tout de suite intervenir. Il faut éviter de se dire que, eh ben non, puisqu'elle a été foudroyée, il y a encore du courant sur elle, et puis on risque de se faire foudroyer. C'est faux. Le courant électrique passe dans son corps, et c'est fini. D'accord ? Donc, tout de suite, faire les premiers gestes de premier secours, et puis appeler les pompiers, le SAMU, et puis l'emmener à l'hôpital le plus rapidement possible. Eh bien voilà, maintenant tu sais quels gestes adopter lors d'un orage. Alors, à bientôt pour une prochaine chronique. Écoute Radio Campus Amiens 87.7. Et surtout, tu peux retrouver cette chronique directement sur ma chaîne YouTube, Sciences et Géo Buissonnière. À bientôt pour une prochaine chronique.
C'était une chronique de Polo le scientifique sur les gestes à adopter en cas d'orage. Place maintenant à l'interview d'Amélie Deporter.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amélie Deporter, la nouvelle responsable du site de la SPA de Poulainville. Comment vas-tu, Amélie ?
Très bien, merci.
Est-ce que brièvement, tu peux nous rappeler ce que fait la SPA, comment ça fonctionne, comment fonctionne un refuge en termes de salariés, de bénévoles ?
Alors déjà, donc nous sur Poulainville, nous avons donc le refuge et nous avons aussi une partie dispensaire. Donc le refuge, bah, c'est ce qui permet d'accueillir les animaux qui n'ont pas encore de foyer, donc de différentes origines. Soit ce sont des animaux qui sont retrouvés errants sur la voie publique, qui font un délai en fourrière et qui sont ensuite proposés pour une prise en charge au sein de notre structure. Ou bien encore, c'est des demande d'abandon de particuliers qui, pour diverses raisons, veulent se séparer de leur animal. Et nous avons également nos délégués enquêteurs qui vont bénévolement sur le terrain pour aller voir donc sur place les différents signalements de maltraitance.
D'accord. Et qu'est-ce que tu fais, toi, particulièrement au sein de la SPA en tant que responsable de site ?
Alors, moi, en tant que responsable de site, je suis un peu le chef d'orchestre hein, pour essayer d'optimiser un maximum notre temps et aussi assurer un fonctionnement avec une prise en charge continue et le plus adapté aux différentes demandes. Concrètement, une journée, elle va être rythmée par des traitements de mails, par des réunions, par des diverses sollicitations, que ce soit par nos bénévoles en enquête, que ce soit par les différentes fourrières, que ce soit parfois des réquisitions judiciaires. Ça va être l'organisation, on va dire, en général, mais aussi toute la partie administrative avec différentes missions de facturation, de comptabilité, etc.
Et concrètement, du coup, quelles sont les tâches quotidiennes effectuées au sein du refuge ?
Alors, au sein du refuge, donc le matin, on a à cœur de tous se réunir avant de commencer la journée pour notre petit brief du matin. Ce brief doit nous permettre de lancer la journée, à savoir qu'est-ce qui s'est passé comme événement marquant la veille, c'est-à-dire les entrées et les sorties de nos animaux, les chirurgies qui ont été faites, qui est malade, qui a besoin de soins particuliers. Sur la journée qui s'annonce, c'est pareil, on fait un point à savoir s'il y a des animaux qui sont potentiellement à rentrer, c'est-à-dire des rendez-vous qui sont pris pour pouvoir répondre aux demandes d'abandon des particuliers, savoir si on a des fourrières qui gère du coup l'arrivée de tel ou tel animal qui se trouve au niveau de l'accueil l'après-midi, puisqu'on est ouvert tous les après-midi sauf le jeudi pour le public. Nous avons également, après ce brief, donc toute la matinée qui est consacrée au nettoyage justement des châteries et du chenil, également de nos petits nacs hein, que nous avons aussi au site. Et la partie soins, donc nous avons la chance d'avoir une vétérinaire à temps plein avec une assistante vétérinaire à temps plein. Pour elle, le matin, c'est les chirurgies.
D'accord.
l'après-midi. Donc, on va être là pour renseigner le public à partir de 14h et nous allons les accueillir jusque 17h. Et de nouveau, de 17h jusqu'à 17h30, jusqu'à la fin, on va faire du nettoyage pour pouvoir permettre à nos petits pensionnaires d'être au propre pour toute la nuit. Nous avons aussi dans la journée de l'éducation qui est faite auprès de nos animaux, hein, auprès de nos chiens en l'occurrence, donc par nos agents, mais aussi une fois par semaine par un éducateur canin extérieur qui vient pour travailler sur problématiques que peuvent avoir nos animaux. Nous avons aussi la sociabilisation de nos chats, parce qu'on a des chats qui viennent effectivement aussi de différents horizons. Et donc, ils ont aussi parfois un tempérament très craintif. Et donc, notre rôle aussi, c'est de les sociabiliser afin qu'ils se sentent déjà mieux au sein du refuge et aussi pour favoriser une adoption plus rapide.
Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des périodes annuelles qui sont un peu plus complexes par rapport à d'autres pour s'occuper des animaux et faire des adoptions ?
Alors, les périodes les plus complexes, ça va être forcément celles qui vont se rapprocher des grandes vacances scolaires d'été. Donc, il faut savoir qu'en général, les refuges, ils sont saturés à partir du mois de juin. Là, l'année dernière, on est arrivé sur une période de saturation précoce par rapport aux années précédentes où les refuges étaient saturés dès le mois de mars-avril. Est-ce que c'est lié à l'inflation ? Est-ce que c'est lié à la difficulté de prise en charge d'animaux non évalués par les propriétaires ? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est effectivement une saturation qui a été plus précoce l'année dernière. Donc, on va dire qu'en période estivale, bien évidemment, les refuges ils sont saturés à partir du mois de mai-juin jusqu'au mois d'octobre-novembre. Mmh. Après, normalement, il y a un creux au niveau tout du moins des demandes d'abandon. Après, malheureusement, les fourrières, c'est incessant. Hein, les animaux qui errent sur la voie publique, il y en a toujours, malheureusement. Et donc, normalement, il y a une période, on va dire, un petit peu de calme à ce niveau-là. Mais l'année qu'on vient de passer, 2023, fait exception. Donc, on va bien voir un peu ce que donne l'année 2024.
Oui, on compte du coup actuellement 64 refuges et maisons SPA en France, c'est ça ?
Oui.
Et en 2023, du coup, un peu moins de 45 000 animaux ont été maltraités et abandonnés et recueillis du coup par la SPA, soit plus de 6%, si je ne m'abuse, depuis 2022, de plus. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la maltraitance animale et un tel abandon ?
Tout simplement en continuant de sensibiliser les personnes, en ayant aussi connaissance des particularités et des obligations de soins que nécessite un animal. Il serait éventuellement pertinent aussi d'avoir un listing, un fichier hein, qui permette de savoir qui a déjà pris un animal et qui l'a abandonné. Il faut aussi penser que l'adoption d'un animal, ça doit être un choix qui est mûrement réfléchi. Il faut aussi laisser la possibilité aux animaux de pouvoir s'adapter après dans un nouveau foyer. Il faut laisser le temps. Et on est dans une société où on a quand même visiblement un manque de temps, ça reste un des motifs de, par exemple, d'abandon, et c'est aussi un des motifs de retour d'adoption sur des personnes qui disent que ça nécessite un trop grand investissement et que du coup ils ne se sentent pas de le faire alors que toutes les conditions étaient réunies. Donc voilà, on a aussi cette problématique là de manque de temps, du fait que il n'y avait pas eu une réflexion peut-être assez approfondie au moment de l'adoption d'un animal et après les gens se retrouvent en difficulté. Donc pour éviter ça, pour éviter d'avoir beaucoup de demandes, pour éviter d'avoir des malheureux qui arrivent de plus en plus nombreux au sein des refuges, il faudrait que les gens prennent conscience que un animal, selon ce qu'on choisit comme animal, comme partenaire, c'est en fonction de son mode de vie, c'est en fonction de ses moyens financiers, c'est en fonction de son mode de garde quand on est absent et de son environnement qu'on peut avoir. C'est vrai que si on est quelqu'un qui est très absent et qui est casanier, qui n'aime pas le sport, etc., ou qui ne va pas faire beaucoup de balades à l'extérieur, on ne va pas prendre un chien qui est très actif et qui a besoin d'avoir beaucoup de dépenses quotidiennes. Donc voilà, il y a ce rapport de se dire que voilà, les animaux, il faut aussi penser à leurs besoins à eux, et les besoins des animaux doivent correspondre aux attentes et à l'environnement de la famille qui souhaite avoir un animal.
Et tu disais tout à l'heure que vous faites aussi des enquêtes du coup sur des cas de signalement. Comment ça se déroule ces enquêtes de la SPA ?
Alors, si une personne, que ce soit un particulier ou un professionnel, a des doutes sur les conditions de vie d'un animal, a des doutes sur une potentielle maltraitance d'un animal, ou n'a pas de doute, hein, après ça peut être aussi des choses avérées avec en étant témoin d'actes. Ces cas-là, il faut aller sur le site de la SPA et vous avez un onglet tout de suite en arrivant sur le site, signalement, faire un signalement. Et donc, vous allez pouvoir rentrer les informations qui correspondent au lieu où se trouvent les animaux avec la suspicion donc, du coup de maltraitance. Ce signalement-là va être renvoyé donc au siège social avec un numéro d'enquête qui sera attribué, puis envoyé donc à nos délégués enquêteurs qui sont donc tous bénévoles pour pouvoir se rendre sur place. Ils vont se rendre sur place en binôme afin de déjà attester de la situation, de pouvoir éventuellement proposer des solutions également dans le cas par exemple de prolifération de chats, dans le cas de personnes qui se sentent débordées par les reproductions de leurs animaux et qui n'ont peut-être pas les moyens de les faire stériliser, on va essayer de les accompagner pour leur trouver des solutions. On peut également trouver des solutions aux personnes qui se trouvent dans une situation délicate, aussi précaire, en les accompagnant, en faisant régulièrement des visites chez eux et en leur proposant des solutions d'accompagnement. Donc voilà, c'est effectivement un accompagnement. Ça peut être également une session qui des animaux puisque les personnes se rendent compte qu'ils n'y arrivent plus, et ça peut être effectivement dans les cas les plus graves un dépôt de plainte avec ensuite les forces de l'ordre et la justice qui tranchera sur la suite des événements concernant la détention des animaux maltraités. Et ce qui est quand même déjà une grande chance, c'est de se dire que voilà, les appels au secours, ils sont entendus et ils sont pris en compte. Néanmoins, on manque toujours de bras, on manque toujours de personnes investies et de nouveaux talents. Donc, si des personnes souhaitent faire des enquêtes, si des personnes souhaitent venir nous aider au sein du refuge, bien sûr qu'on est toujours preneur de nouvelles personnes.
Donc vous êtes, j'allais justement te demander si vous êtes en recherche de bénévoles actuellement. Donc oui, c'est le cas du coup.
Toujours. Alors toujours, tout simplement parce qu'il y a du travail pour tout le monde, il y a des talents différents et des compétences différentes pour chacun. Faut savoir qu'au sein d'un refuge, il y a des missions qui sont en interne et il y a aussi des missions qui sont en externe, que ce soit de la sensibilisation auprès du jeune public avec des interventions pédagogiques qui sont faites en école. Donc c'est des bénévoles. On va également avoir, comme on le disait, des enquêtes, donc des enquêtes liées à des signalements. Donc c'est des bénévoles, des délégués enquêteurs. On va également avoir des collectes qui seront organisées par nos bénévoles avec le stand de la SPA qui sera visible au niveau des supermarchés, par exemple, pour récolter des fonds et puis récolter du matériel pour nos animaux. On va également avoir tout ce qui est mission interne au refuge. Donc là, ça va être l'aide au nettoyage, la sociabilisation des chats, l'éducation des chiens, tout ce qui est tâches administratives. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire et une journée, elle passe toujours très, très vite. Donc, plus on est et mieux c'est. Donc nous, comment on procède? Pour devenir bénévole, on va demander à assister déjà à une première réunion d'information au sein du site. On le fait une fois par trimestre. C'est souvent un dimanche matin en fin de matinée. Donc on explique que les missions principales que peut faire un bénévole au sein du refuge. Après, il y a des échanges sur les questions que peut avoir, que peuvent avoir les potentiels bénévoles. Il y a une visite du refuge et après, les personnes intéressées retirent un dossier. Suite à ce dossier-là, ils doivent donc le compléter et nous le redonner. Et après, ils sont pris en charge par nos bénévoles formateurs. Donc, ça, c'est également un des rôles hein, clés, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir des bénévoles formateurs toujours pour former les nouveaux arrivants. Et donc, ça permet d'avoir de l'aide quotidiennement qui est indispensable au bon fonctionnement de la structure.
D'accord. Et j'ai lu quelque part, depuis le début de l'année, la vente des chiens et des chats en animalerie commence à être interdite. Quelles sont les perspectives de la SPA pour l'année de 2024 par rapport à ça? Et je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'il en est pour les foires aux animaux, ce genre de choses, et les NAC. Donc pour le rappeler, les NAC, donc c'est les nouveaux animaux de compagnie. Donc
oui.
Ça peut être des hamsters, des cochons d'Inde, des lapins, tout ça, tout ça.
Exactement.
Et du coup,
il faut savoir que le certificat d'engagement et de connaissance est maintenant obligatoire hein, quand qu'on souhaite adopter ou acquérir hein, en achat un animal. Ce certificat d'engagement, il doit être rempli préalablement 7 jours avant d'accueillir l'animal chez soi. Normalement, à la base, ce certificat d'engagement, il est devenu obligatoire pour justement éviter les achats compulsifs des animaux, principalement en animalerie, principalement en foire. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on se rend compte qu'en pratique, ce certificat d'engagement est bien malheureusement souvent, on va dire, avec une date qui n'est pas forcément celle à laquelle le document a été lu. Quand on a par exemple des foires qui sont là sur un week-end avec des personnes qui vont visiter et qui finalement craquent sur un animal et repartent le jour même avec lui et qui n'avaient absolument pas connaissance et conscience qu'il fallait remplir un certificat d'engagement, ben voilà, on est dans la limite de ce que peut apporter ce document-là. Donc là, au niveau des actions de la SPA, on aimerait effectivement qu'il y ait une prise de conscience sur cette pertinence qui n'est pas, on va dire, concrète sur le terrain, qu'il n'y ait plus du coup la possibilité de pouvoir acquérir un animal, quel que soit le billet, mais de façon, on va dire, impulsive. Mm-hmm. C'est bien pour ça qu'il y a des pétitions qui sont créées. C'est bien pour ça qu'il y a des dialogues qui sont faits également pour pouvoir mettre en place des choses concrètes, que ce soit avec l'État ou différents partenaires, pour pouvoir effectivement accentuer sur l'adoption responsable, que ce soit sur les chiens, les chats, mais également, comme vous le disiez, les NAC.
Et comment ça se passe pour adopter justement un animal à la SPA? Quelles sont les procédures à suivre?
Alors, quand on souhaite adopter un animal, alors que ce soit la SPA ou même ailleurs, hein, c'est vrai que, comme je vous le disais précédemment, il faut déjà se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme environnement, quelle est mon activité quotidienne, quel temps je peux accorder à mon animal, quelles dépenses je suis capable d'absorber aussi. Et en fonction de ça, voilà, on va se poser les bonnes questions également au niveau de la garde en cas d'absence de vacances, etc. Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux le faire garder, etc. Une fois qu'on arrive sur cette réflexion-là, normalement, on doit déjà savoir à peu près si on veut un chat, un chien, un lapin. Voilà, en fonction de son cocon familial et justement des critères que je viens de citer. Une fois que c'est le cas, il faut prendre connaissance du certificat d'engagement, justement, qui rappelle les besoins de chaque espèce. Et ensuite, vous avez la possibilité, dans le cadre d'une adoption SPA, de regarder, que ce soit sur Facebook, mais également sur notre site de Poulainville, tous les animaux qui sont à l'adoption en ce moment. Donc, vous avez une photo sur l'animal avec le descriptif. Donc, le descriptif est fait vraiment, on va dire, de façon individuelle sur chaque animal, en connaissant son caractère, savoir si on connaît son histoire ou non, et savoir quel serait le foyer le plus adapté pour lui. Donc, déjà, c'est bien d'avoir le certificat d'engagement, d'avoir vu un petit peu les différents animaux qui sont susceptibles de convenir avant une visite. Et bien sûr, après, c'est la visite au sein du refuge, la rencontre avec nos agents animaliers qui va pouvoir affiner justement cette recherche du compagnon en fonction de tous ces critères-là.
Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux animaux en situation de SOS et nous expliquer ce qu'est la situation SOS ?
Alors, la situation SOS, ça va être la favorisation d'une adoption pour un animal qui est soit âgé, soit avec une pathologie donc médicale avérée, donc qui nécessitera des soins à vie, ou bien des besoins particuliers au niveau du comportement, par exemple un suivi comportemental extérieur. Donc voilà, c'est un critère, on va dire, qu'on a au niveau de la SPA pour pouvoir permettre d'avoir un tarif de participation à l'adoption moindre que pour une adoption, on va dire, classique, pour permettre à nos pensionnaires avec des particularités d'avoir les mêmes chances d'adoption.
D'accord. Le 14 février, c'était la sortie du film Chien et chat au cinéma, en association avec vous, du coup, la SPA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de cette collaboration ?
Alors, cette collaboration, elle a été faite pour justement sensibiliser le grand public de façon assez ludique à travers ce film qui est très bien fait, pour justement voir un peu la différence entre les chats et les chiens et les différentes les foyers, la différence entre le foyer du chien qui se retrouve justement errant et le beau Maine Coon qui est cajolé et qui est une star. Donc voilà, ça regroupe les particularités. Le film, il est centré sur les particularités au niveau du chat et du chien et de tout ce que ça peut inciter, on va dire, dans la vie des propriétaires. Donc c'est une belle façon de pouvoir mettre en lumière les particularités de nos animaux et de pouvoir faire parler d'eux aussi de façon fort sympathique au cinéma.
C'est super.
Franchement, moi, j'ai eu l'occasion de voir effectivement les bandes annonces, etc. J'ai hâte de pouvoir aller le voir en salle, mais ça a l'air d'être effectivement un film qui est très parlant et surtout qui touche le plus grand nombre, que ce soit adultes et enfants. Et comme on le disait précédemment, une des clés pour pouvoir à terme travailler vraiment sur le fond de la maltraitance et c'est la sensibilisation des personnes. Donc ça passe bien évidemment par les enfants qui deviendront dans les années à venir les futurs propriétaires ou les futures familles des pensionnaires ou des animaux en général.
De nos petites bêtes qu'on aime tant.
Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que tu aurais un autre message à faire passer aux personnes qui nous écoutent ?
Alors, aux personnes qui nous écoutent, j'aimerais dire que effectivement le choix d'un animal conditionne beaucoup de choses au sein d'une vie. C'est un bouleversement quand on décide d'inclure dans sa famille un nouveau membre. Que ce nouveau membre, il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de qualités, il a aussi des défauts, et que on se doit en tant que propriétaire et en tant que membre de la famille de pouvoir anticiper, de pouvoir subvenir à tous ses besoins, et que dans tous les cas, là, les professionnels sont là pour apporter une écoute et de l'aide, et que parfois, la solution peut être trouvée sans passer sur des décisions, on va dire, radicales. Donc, n'hésitez pas, en cas de difficulté, à vous rapprocher de professionnels, que ce soit vétérinaires, éducateurs, ou même nous, auprès de notre structure, on peut vous aider par téléphone en vous donnant des pistes par rapport à vos difficultés. Nous, sur la SPA de Poulainville, on a la chance d'avoir également, comme je le disais, un dispensaire en plus du refuge, ce qui permet de pouvoir accueillir les animaux pour des soins sur des bénéficiaires qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs animaux en clinique classique. Donc voilà, il y a des solutions qui existent, renseignez-vous et on sera là pour vous accompagner si vous avez besoin.
Super. Pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment on peut suivre l'actualité du refuge et de la SPA ?
Alors, pour suivre l'actualité du refuge, vous pouvez soit aller sur le site la SPA de Poulainville, ou alors nous suivre via notre Facebook que nous essayons d'alimenter tous les jours pour que les actualités soient visibles quotidiennement.
Eh bien, merci beaucoup, Amélie, d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup à vous pour votre intérêt, pour le temps qui nous a été accordé. Et puis, j'espère à une prochaine fois.
Avec grand plaisir.
C'est déjà la fin de notre émission. L'invité d'aujourd'hui était Amélie Deporter. On se quitte en musique avec le morceau Don't Sweat the Technique de Eric B. and Rakim. À demain.
Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dot, check the style. I flip the script so it can't get filed. At least not now, it'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass, two MCs get weak. For every road they trace is a scar they keep. Cause when I speak, they freak to sweat the technique. I made my debut in 86 with a melody and a president's mix. And now I stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I play for keeps. When they sweat the technique. Don't sweat the technique. They wanna know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context. Philosophers are wondering what's next. Pieces took the lab to observe them. They couldn't absorb them, they didn't deserve them. My ideas are only for the audience ears. For my opponents it might take years. Pencils, pens, and swords. Letters put together from a key to chords. I'm also a sculpture, born with structure. Because of my culture, I'm a perfect instructor. Technical style that'll be full of technology. Complete sights and new heights after I get deep. You don't have to speak, just see. And peep the technique. Don't sweat the technique. I speak in the squeak, it's talking cheap. Then I get deep in the beat, then complete. Bold with the seat, never weak or obsolete. They never grow old, techniques become antiques. Better than something brand new, cause it's original. In a wild style, I have much more volume. Classical, too intelligent to be radical. Masterful, never irrelevant, mathematical. Here's some soothing souvenirs for all the years. And for the sort of thoughts and ideas. It's cool when you freak to the beat. But don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique.